À chaque fois qu'on pense que c'est fini, bon, là, on a fini de parler de Trump, on va passer à d'autres choses. Il arrive encore du nouveau. Au moment même où on se parle, ça discute fort à la Chambre des représentants, au Capitole, puis là, ça va être le Sénat. Après, on va démêler tout ça, mais la grande question qu'on se pose tous, c'est est-ce que Trump va être destitué? Bon, il y en a peut-être qui nous écoutent, qui se demandent justement, on va en parler avec mon prochain invité, ça change quoi? Le 21 janvier, ça va être Biden, on est rendu le 13. Mm. C'est quoi les avantages de faire ce débat-là? Ça se passe live, au moment où on se parle, ça discute, ça vote. Est-ce qu'on va destituer Trump? Pourquoi c'est important pour certains? De quelle façon ça se fait? Comment il réagit? Ce qui est bizarre, je faisais remarquer à Jean-Simon pendant la pause, là, on va avoir plein d'opinions, de faits, beaucoup de gens se prononcent, mais il manque Trump parce qu'il est barré partout.
Il n'est plus là, complètement muet.
Exact. On rejoint notre spécialiste en actualité internationale, Éric Arsenault, bonjour!
Bonjour Sylvain!
Fait que ça fait bizarre un peu de parler de Trump, mais sans Trump.
Oui, en effet. Et on a l'impression de rejouer dans un vieux film qu'on a vu il y a un an, presque jour pour jour.
Ah oui, ben oui, c'est vrai, il y avait déjà eu une démarche, hein?
Oui, parce qu'au début de l'année 2020, ouais. Donald Trump avait fait l'objet d'un premier procès en destitution qu'il avait remporté. Il avait été acquitté, mais sous d'autres prétextes que ceux pour lesquels actuellement il est mis en destitution. Mais effectivement, à un an d'intervalle. Et d'ailleurs, dans l'histoire américaine, c'est la première fois. Donald Trump était déjà assuré d'avoir sa place dans les livres d'histoire, mais il y a une raison supplémentaire maintenant d'avoir sa place, c'est que ça va être le premier président américain de l'histoire à avoir été deux fois mis en accusation pour destitution.
Je veux commencer par cette question-là, Éric, parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent qui se la posent. Ça sert à quoi de faire ça avant qu'on explique le processus, où on en est, les chances que ça réussisse? À quoi ça sert de faire ça, vu que la sermentation de Biden, c'est bientôt?
Bon, ben voilà, beaucoup de gens se posent la question. Puis certains disent que c'est une perte de temps, parce que dans 8 jours, le règne de Donald Trump sera terminé. Alors, même s'il conteste encore les résultats, il a accepté qu'une nouvelle administration entre en fonction le 20 janvier, et il s'est engagé à travailler à la transition. D'autant plus que ça risque d'être impossible de mener à bien la procédure avant le 20 janvier à midi. Parce que c'est le 20 janvier à midi que Joe Biden officiellement devient 46e président des États-Unis. Alors même en utilisant la procédure accélérée, ce qu'on fait actuellement, il y a des gens qui se posent la question, est-ce que c'est pertinent de destituer quelqu'un, surtout lorsque le résultat risque de venir après que la personne ait quitté ses fonctions? Ça sert à quoi? Absolument à rien. D'autres disent également que ça risque d'accroître tout simplement les divisions aux États-Unis, d'engager encore davantage les partisans de Donald Trump qui cherchent vengeance. C'est peut-être même contre-productif pour les démocrates, parce que dans un certain sens, ils tirent un peu dans le pied de Biden, parce que en lançant cette procédure de destitution-là, c'est comme si on portait ombrage au début de la présidence de Biden. Et ça risque également d'accaparer les travaux du Congrès pour des semaines, et nécessairement, ça risque peut-être de compromettre la mise en place de l'agenda de Joe Biden. Bref, il y en a qui disent que même si le comportement de Donald Trump était répréhensible la semaine dernière, son discours avant les manifestations et les émeutes au Capitole, au-delà de ça, c'est peut-être étirer l'élastique un peu loin de dire qu'il s'est rendu coupable de destitution puis qu'il faille le destituer pour coup d'État. Alors, il y a des gens qui se posent des questions à ce sujet-là.
J'ai entendu comme argument, dis-moi qu'est-ce que t'en penses, c'est réel ou pas, que la destitution fera en sorte que Trump ne pourrait pas se représenter à la présidence dans 4 ans. Est-ce que c'est vrai?
Exact. En fait, c'est l'un des arguments avancés. Mais ça, les démocrates veulent pas le dire très haut et fort, par contre, mais les démocrates, ce qu'ils disent aux autres, c'est que Trump, par son discours, par ses déclarations, par ses tweets, avoir incité ses partisans à la violence, à marcher sur le Congrès, il a violé son serment de défendre la Constitution. Et les démocrates, en tout cas certains d'entre eux, en font une question de principe. Alors qu'il reste 3 ans ou 3 jours au mandat de Donald Trump, ça fait pas de différence. C'est le genre de comportement qui peut pas rester impuni. Mais derrière ça, comme tu l'as souligné, Sylvain, il y a des questions de calcul politique. Parce qu'effectivement, si Donald Trump est destitué, il devient inéligible pour être à nouveau candidat, comme la rumeur le laisse entendre en 2024. Parce que la rumeur, depuis un bout de temps, laisse entendre que Donald Trump, en quittant la Maison-Blanche le 20 janvier, va immédiatement enclencher. D'ailleurs, certains lui prêtaient même l'intention d'en faire l'annonce le 20 janvier pendant l'investiture de Joe Biden, comme justement pour lui faire un pied de nez, lui prête l'intention d'annoncer sa candidature pour la présidentielle de 2024. Et il pourrait, parce qu'aux États-Unis, la Constitution dit un président n'a pas le droit de faire plus de 2 mandats. mais il n'y a rien qui dit qu'il ne peut pas les faire de façon non consécutive. Alors, c'est une façon peut-être pour les démocrates, justement, d'empêcher Trump de se qualifier, donc, dans un certain sens, lui barrer le chemin à tout jamais de la Maison-Blanche, mais aussi, c'est une tactique également des démocrates pour semer la division dans les rangs républicains, forcer les républicains à se positionner, les pros et les anti-Trump, et surtout quand on a vu les images de la semaine dernière, l'assaut contre la Capitole, que tout le monde a dénoncé, c'est embarrassant là, pour certains républicains de voter contre la destitution, sachant qu'ils risquent peut-être d'associer justement à ces gestes-là. Donc, il y a une partie de calcul politique derrière ça, c'est clair.
Parle-moi du processus un peu maintenant, Eric. Est-ce que ça a des chances de réussir parce que ça marche par vote, là, tu l'as bien dit. Et puis bon, selon ce que l'on sait, les démocrates sont majoritaires du côté de... Maintenant, ben, ils vont être majoritaires dans les deux chambres avec les dernières élections, mais ça prend, si j'ai bien compris, les deux tiers pour un processus de destitution. Donc, si je sais bien compter, là, ça n'a aucune chance de passer.
Non, ça passera pas, ça passera pas. En fait, enclencher la procédure, c'est beaucoup plus facile. C'est ce qu'on est en train de faire au moment où on se parle d'ailleurs. Okay. À la Chambre des représentants, on est en train de voter la mise en accusation du président. Sauf que ça, ça exige une simple majorité simple. Et les démocrates étant majoritaires à la Chambre des représentants, ça va passer. D'autant plus que, je voyais au dernier décompte, il y a 7 républicains qui ont voté avec les démocrates pour engager le processus de destitution de Donald Trump. Sauf qu'à partir du moment où l'acte d'accusation est adopté, là, ça se transforme, ça se transporte du côté du Sénat. Et le Sénat se transforme en cour de justice et il y a donc un procès présidé par le juge en chef de la Cour suprême et ce sont les sénateurs qui doivent déterminer la culpabilité ou l'innocence du président. Mais comme tu l'as bien fait remarquer, là, la game est différente parce qu'au Sénat, ça prend 67 voix sur 100, donc les deux tiers des voix pour officiellement destituer le président. Et actuellement, on est à égalité, là, c'est 50-50, démocrates et républicains. Mais les démocrates ont l'avantage parce qu'en cas d'égalité, c'est le vice-président, dans ce cas-ci la vice-présidente Kamala Harris qui tranche et qui va évidemment trancher toujours du côté des démocrates. Mais à moins que 17 républicains, sénateurs républicains, décident de changer de camp, il y en a peut-être quelques-uns qui vont le faire, mais de s'en aller dans le camp des démocrates, il y a pratiquement aucune chance que Donald Trump ne soit effectivement destitué.
OK. Et pendant tout ce temps-là, donc, il y a ces débats du côté de la Chambre du Capitole pour la destitution de Trump. On se rapproche de l'assermentation et je jasais avec un spécialiste de la radicalisation hier. Il y a des gens qui sont inquiets parce que si les manifestants, bon, on a réussi, ça s'est quand même brassé beaucoup la semaine dernière. Il y en a certains qui ont déjà été arrêtés. Le FBI et des marshals ont procédé à des arrestations, mais il resterait encore des milices puis des groupes extrémistes violents aux États-Unis. Beaucoup de gens craignent que ça brasse encore au niveau de la cérémonie d'assermentation. Qu'est-ce que t'en penses?
Ah, la menace est carrément réelle. Même si, effectivement, ils sont maintenant bannis des réseaux sociaux, là, les partisans de Trump, alors Twitter, Facebook, Instagram, tout le monde les a bannis, mais ils ont quand même d'autres moyens de se réseauter entre eux. Et il y a des informations qui circulent à l'effet qu'effectivement, il y a des groupes qui, le 20 janvier, vont être à Washington. Actuellement, le Capitole où va se dérouler la cérémonie, parce que traditionnellement, la cérémonie se déroule sur les marches du Capitole. Ouais. Cette année, il n'y aura pas de public. Alors, il n'y aura pas de controverse comme il y a 4 ans de savoir qui a eu la plus grosse foule. C'est sûr que Biden va battre tous les records de la plus petite foule parce qu'il n'y aura pas personne à cause de la COVID. Il y en a même qui laissent entendre que la cérémonie devrait être déplacée à l'intérieur du Capitole plutôt qu'à l'extérieur sur les marches, justement par mesure de sécurité. Le Capitole a été entouré d'un immense périmètre de sécurité. Alors, il y a une clôture qui a été aménagée tout autour. On s'est fait prendre par surprise la semaine passée. Visiblement, ça ne se reproduira pas. Et il y a des milliers et des milliers de soldats. Il y a, Sylvain, c'est pas un gag, là. Il y a actuellement, autour du Capitole à Washington, plus de soldats américains qu'il y en a en Irak.
Hein? OK, fait que la menace est vraiment prise au sérieux, réelle. On verra, peut-être, espérons que ces gens-là ne passent pas de la parole aux actes, mais malgré qu'ils sont bannis, etc., ils restent encore dans les fins fonds du web, là, dans les sous-sols du web, comme le dit parfois Jean-Simon, des réseaux, des sites où ils sont en train de se crinquer. Fait qu'il va falloir encore se croiser les doigts d'ici au 20 janvier. Eric Arsenault, merci beaucoup de nous avoir parlé.
Toujours un plaisir. Salut Sylvain, bonne journée. Bye.
16h21. Alors, c'est ce que David Morin également nous disait hier. Ceux qui nous ont écoutés, qui lui est spécialiste vraiment du côté de la radicalisation, il disait, c'est pas fini. Attendez, lui-même était même pessimiste. Absolument. Il dit, moi, je pense que ça va brasser. Ils vont essayer une dernière fois. de bon, et tu vois là les soldats, c'est pas drôle hein, une des plus grandes démocraties, Joe Biden.
Imagine à Washington.
Joe Biden va peut-être être obligé de se cacher. Jean-Simon et Elisabeth vont se cacher pour être assermentés. C'est son moment à lui, c'est lui qui a gagné en raison qu'on craint de la violence non pas d'un pays étranger, non pas de terroristes musulmans ou de mais d'Américains.
De violence intérieure.
Ce sont des Américains. David Morin nous disait hier, dans les dernières années, si on regarde tous les attentats terroristes, les Américains ont fait plus de victimes que n'importe quel autre terroriste de pays étranger.
Absolument.
C'est ce qu'on appelle du terrorisme maison, là.
Terrorisme intérieur, absolument.
Exactement. Oui. On en est rendu là.
Et ils sont très organisés. J'ai vu plusieurs reportages de journalistes qui étaient en plein milieu de la foule et des choses qu'on n'a pas vues le 6 janvier, mais où est-ce qu'on voit vraiment une coordination? Il y avait des leaders qui étaient là, qui disaient « On avance à tel moment. OK, on a telle information. On y va. C'est maintenant ou jamais. » Il y avait une orchestration de ces gestes-là, ce qui n'est pas nécessairement surprenant quand on sait que la plupart de ces groupes-là sont des paramilitaires, milices paramilitaires qui sont très, très intéressés par ce type de stratégie-là. Et présentement, ils fomentent des attaques un peu partout. La bonne nouvelle, peut-être, c'est qu'on est peut-être plus au fait de ce qui se passe qu'avant le 6 janvier. Probablement qu'on a plus d'informations, qu'on a plus de sécurité. Donc, c'est peut-être ça qui va faire qu'on va être capable de les déjouer avant qu'ils passent à l'action.
Moi, vous savez que j'aime pas le point Godwin. On fait attention. On n'a pas toujours en arrivé que les nazis. Mais là, c'est pas nous autres qui l'a sorti. Elisabeth nous l'a fait entendre. C'est Arnold Schwarzenegger qui a fait une sortie. Son père était autrichien, a trempé dans le nazisme, etc. Puis il a bu le restant de sa vie, puis il a battu ses enfants, dont Arnold. Une histoire bien triste. Je pense que c'est la première fois que Schwarzenegger se confiait sur son passé, sa famille. Il dit qu'il a connu plein d'hommes, là, qui étaient des anciens nazis, qui ont passé leur vie à avoir des regrets, puis à boire, puis à être violent, puis etc. Puis bon. Puis, il reste que plein de gens en Allemagne, après la guerre, ont fait le constat de, dès le départ, on aurait dû stopper ce mouvement-là dès le départ, mais plusieurs personnes l'ont sous-estimé. T'sais, ils n'ont pas lu Mein Kampf. Mein Kampf, c'est juste la provocation, puis il va se calmer, puis on va le contrôler, puis etc. Puis, ça va bon. On s'est ramassé avec ça. Là, il faut faire attention avec les comparaisons, mais je me sers un peu de ce que Schwarzenegger a dit. Lui, c'est venu le chercher. Puis là, je vais vous dire concrètement de ce que je parle, parce que pour le reste, il n'y a pas de comparaison possible. Mais c'est parce que j'ai vu le film Scandale. Avez-vous regardé ce que je vous ai...
Pas encore, parlé? Mais pas encore. C'est sur ma liste. Là.
Et il parle des frasques de Trump au tout début, dont on a un peu oublié. C'est vrai que, à regret, là, j'accuse personne, là. Mais regarde, on peut juste de temps en temps faire un petit examen de conscience chacun, là. Dès le départ, quand Trump a fait preuve clairement de misogynie et de racisme, là, ça aurait pas été. Il aurait pas dû avoir une espèce
une
de
ligne, coupure, déjà.
Une. Tu sais, il y a des propos. C'est, vous savez, juste aller sur Internet, ils sont tous là, ces propos, là. À chaque fois, il disait, il n'y a rien, là. Puis ses fans, c'est une boutade.
On pensait pas qu'il se ferait lire président.
Non, t'as raison.
On disait tous, c'est impossible. On a dit ça jusqu'à la veille, jusqu'au soir des
jusqu'au
élections.
Jusqu'au soir, ben oui,
c'était
même le soir.
Impossible.
Même.
Je pense que le jour, la veille des élections, dans le jour du matin, on avait interviewé quelqu'un qui disait, mais qu'est-ce que Trump, c'est sûr. Passera
pas rappelez-vous, là. Rappelez-vous, c'est pas pour y tourner le ferme en plein, mais Raphaël Jacob avait mis son. Qui est analyste, qu'on entend souvent ici, notamment. Il avait mis son poste en jeu. Il avait dit, s'il est élu, je parle plus.
C'était pas le seul, c'était tout le monde. C'était tout le monde qui avait dit ça. Personne croyait à ça.
Mais, tu sais, à un moment donné, c'est parce que là, ça se répand.
C'est ça.
Ça se répand, puis ça devient légitime, ça devient admissible. C'est comme, bon, il y a rien, là, Trump, puis, ouais, mais là, puis là, il en rajoute une deuxième, une troisième. Ouais, mais là, on l'a pas condamné la première fois que ça en est pris à telle femme, ou à tel peuple, ou au Mexicain, ou à la présentatrice de Fox, ou etc. Fait que là.
Ça s'est tellement accumulé que c'est ça, là. Ouais.
À un moment donné, quand tu permets un certain nombre de choses, il y a des politiciens qui auraient perdu le job 5 minutes après avoir dit, là, 1/100 de ce qu'il a dit. Êtes-vous d'accord avec moi?
Mais
prenons juste ici. Imaginez juste, François Legault est dans un point de presse, il aime pas la fille de LCN ou je sais pas, puis il dit, coudonc, tu dois avoir tes règles, toi.
Ouais. Juste ça, c'est fini pour Legault.
C'est comme unanime. Tu sais, tout le Québec fait comme, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Il est fou.
Personne va broyer.
T'as les yeux pleins de sang, puis tu dois avoir tes règles. Mais là, les paroles que j'ai... Vous devez vous en souvenir, Trump les a prononcées là, sur Megyn Kelly de Fox News, qui est dans son camp en passant. Fait qu'imaginez les filles de CNN ou les femmes de CNN ou des autres. Il a dit d'autres choses aussi. Tu sais, si François Legault dit, moi, là, au temps de la COVID, là, faudrait surveiller les frontières, surtout les Mexicains, ça, c'est des violeurs, puis des assassins, puis des voleurs.
Fini. C'est fini.
C'est fini.
Puis il était déjà fini de sa première déclaration, qui est doublement fini.
Non, mais t'es d'accord avec moi?
Ah oui, puis, vraiment, là.
On le fait avec d'autres. À un moment donné, il y a des personnages qui commencent, ils étirent un élastique, puis là, ils pètent pas, puis là... OK, j'ai cette zone-là, moi. C'est moi, je peux dire à peu près tout ce qui me passe, ça va passer.
Il n'y a pas eu de limite.
Parce que c'est Donald Trump. Fait que là, c'est comme...
Je fais juste m'interroger un peu. C'est que pendant des années et des années, les gens qui étaient racistes, suprémacistes, tout ça, étaient mis au banc de la société. Là, du moment que t'es tolère, puis qu'il y a toutes sortes de signaux qui indiquent qu'à la limite, il y a bien des opinions qui sont partagées par ton président qui est là, eux, ils se sentent investis d'une possibilité d'action aussi. Sinon, ils resteraient dans leur sous-sol, puis le petit meeting de bord en chiolant, puis en parlant tout seul dans leur
coin. Mais là, le président le dit.
Mais là, crime, on va le faire, là. J'ai le chef de l'État qui me dit de le faire. Puis là, t'as même plus besoin de Trump. Là, il est invisible, on dit, ça va arrêter. Non, c'est déjà parti.
Bon, espérons, restons optimistes, ça me tombe pas surtout dans le contexte actuel. Regarde, finalement, là, le FBI fait la job, la police est là-dedans. Là, ils pourront pas l'échapper deux fois. Parce que, là, il y a des soldats. Eric nous a dit, c'est frappant, plus qu'en Irak. Il y a plus de soldats à Washington qu'il y a de soldats américains en Irak. Ils sont là, la guerre nationale est là, c'est plate pour Joe Biden. Je suis pas un fan de Biden, mais qu'importe, moi, c'est une question de côté esprit sportif. Le gars, il gagne, il a le droit à sa victoire. Absolument. Il devrait avoir le droit de monter ses marches du Capitole. Il va peut-être être obligé de se cacher, je trouve ça plate, même si je suis pas un partisan démocrate. Mais espérons que ça se passe bien, puis qu'à un moment donné, ça soit derrière nous, puis qu'on puisse tirer certaines leçons. Parce que dans la vie, ça sert à ça, le passé. Pour pas que ça se reproduise.
Exact.